11. L'arbre aux écus. C'est sous un charme descendu, et ses écus y est pendu. Chrétien de Troyes. Sous le grand pavillon du comte de Guimarc, on applaudit à tout rompre le ménestrel. On avait rarement entendu une interprétation à la fois si vibrante et si impertinente du bel églantier. Dans le public, même des auditeurs comme Blancandin sans escrègne ou Ivorin de Kéan, qui avaient pourtant écouté cette même aventure un mois plus tôt au château de Verre, en furent impressionnés. Le jongleur salua avec une grâce exquise. En plus, il était d'une beauté à se pâmer. Dames et demoiselles, et quelques seigneurs aussi, ne se lassaient point de l'admirer. Plus extraordinaire encore chez quelqu'un qui maîtrisait à la perfection le roman du bel églantier, il se disait qu'il n'était point du duché de Bromel. Il était arrivé dans une troupe de bateleurs venus de la marche franche pour amuser la compagnie, mais rien en lui ne respirait la vulgarité prebourgeoise. Son nom sonnait étranger. Annoette quelque chose. Et la finesse de ses traits, comme le raffinement de ses manières, trahissait l'un des derniers elfes, osant encore vagabonder dans le vieux royaume. Seigneurs et dames s'accordaient à dire que le comte Anguzel avait fort bien fait les choses. Non seulement le camp de Lindina s'était fastueux, mais il s'y prodiguait d'aussi bons divertissements qu'à la cour de Mourmarc. Le ménestrel venait de ravir l'assemblée pendant un entremets. En cette veille d'adoubement, le comte tenait déjà table ouverte. La noblesse de Guimarc, parée de ses plus beaux atours et de brins d'immortels, se pressait sous les auvents et chapiteaux de toile. Quand l'enchantement commença à retomber, Ivorin de Kéan ne fut toutefois guère d'humeur à goûter les nouveaux mets offerts par les écuyers tranchants. Ses soucis le rattrapaient et lui coupaient l'appétit. Quoiqu'il occupât une table éloignée, dévolue à des bacheliers et des vavasseurs, il voyait bien que Blancandin se montrait également nerveux sur l'estrade seigneuriale. On n'avait pas encore brisé les premières lances du tournoi et certaines choses tournaient déjà de travers. L'un des problèmes sautait aux yeux de tous. À la haute table, les chevaux passants de Guimarc encadraient étroitement un seul cerf de Bromel. À la place d'honneur, Blancandin se retrouvait cerné par le comte Anguzel et par son fils Claudas. À la veille des combats, Méléagan et ses gens n'avaient toujours pas donné signe de vie. Assez bravement, le jeune prince faisait bonne figure, mais pour un damoiseau en rupture de banc, si courageux et si bien né fut-il, il était difficile d'en imposer à la maison de Guimarc. Quoiqu'il fût vieillissant et que la goutte l'eût rendu boiteux, le comte Anguzel rayonnait plus que jamais d'une intimidante prestance. Un peu empâté par l'âge, il n'en avait pas moins conservé une carrure puissante acquise au cours de 40 ans de chevauchée et d'escarmouche. Sa crinière blanche, alliée à un certain savoir-vivre, lui donnait une physionomie tempérée et sage, dont les gens avertis savaient combien elle était trompeuse. Le grand seigneur pouvait à l'occasion tourner des compliments aimables, mais ses sourires remontaient rarement jusqu'aux yeux, dont les prunelles glauques offraient une énigme aussi floue qu'un écran de fumée. Le comte avait fini par se rendre impénétrable. Il cultivait l'art d'être imprévisible, capable à froid des pires cruautés comme d'une mansuétude calculée. Seigneur d'une marche frontière, il se montrait d'une impitoyable sauvagerie avec ses ennemis au roman qui l'admiraient et d'une courtoisie sans faille avec la noblesse bromaloise qui le redoutait. 10 ans plus tôt, sa défaite contre Ganelon avait été pour lui une cuisante humiliation. Il n'en avait pas rabattu pour autant. Et tout en respectant l'hommage qu'il avait été contraint de rendre, il s'était comporté depuis lors comme s'il y avait gagné une mystérieuse puissance. En raison de ses relations complexes avec le duché, le comte se reposait de plus en plus sur son héritier pour défendre la vallée de la Claye. Il l'avait excellemment formé. Le père et le fils étaient de la même trempe. Ils le savaient tous deux et se gardaient à l'œil. Combattant aguerri, L'audace de Kimark se révélait aussi difficile à cerner que son géniteur. Il n'hésitait pas à pousser des opérations de représailles sur la rive gauche de la Claye. Avait recruté quelques exilés ou romans parmi ses sergents. Parlait leur dialecte et prenait parfois plaisir à provoquer la bonne société en portant des bijoux ou des armes barbares. Mais c'était également un seigneur instruit, plus lettré que son père, et les mauvaises langues le disaient un peu frotté de magie. Entre ses fortes personnalités, Blancandin faisait mine de prise plus que d'invité. Sans doute le charisme de Méléagant et la galanterie d'Azalaïs eussent-ils compensé l'ascendant des Kimarques, mais le seigneur de Verre et sa dame brillaient par leur absence. Un mois plus tôt, après avoir choyé Blancandin et son escorte plusieurs jours durant, il les avait laissés prendre seuls le chemin de l'Indinas. Au dire des redoutables époux, le jeune homme devait se présenter au plus tôt au comte de Kimark, à la fois pour lui témoigner sa reconnaissance et bâtir des relations avec sa cour. En outre, quelques semaines ne seraient pas de trop pour permettre aux ferronniers d'Anguzel d'ajuster l'armure qu'ils avaient fabriquée à l'attention du prince. Quant à lui, Méléagant devait parer à toute éventualité au cas où le duc engagerait une guerre ouverte. Il lui fallait terminer de mettre Verre en défense. Il s'était donc excusé de ne point accompagner son frère et ses suivants, mais il avait juré qu'il ne tarderait point à prendre la route. Ses arguments avaient convaincu les chevaliers. Mieux encore, le désir d'en découdre du prince était manifeste. Les invités avaient pris congé du seigneur de Verre en toute confiance. Avec le recul, Ivorin se rappelait que seul Blancandin avait paru ébranlé lors de leur départ. Sur le moment, le chevalier de Kéan avait mis cela sur le compte de la séparation et peut-être de la déception d'être privé de la compagnie de son frère au moment de se présenter à Anguzel. L'arrivée au château de Mormark, l'accueil du comte, puis la chevauchée vers le camp de l'Indinas, s'était cependant déroulée sous les meilleurs auspices. Et le début du séjour dans le comté de Kimark avait filé dans une certaine insouciance. Pourtant les jours, puis les semaines passaient. Des seigneurs, des dames, des chevaliers arrivaient non seulement du comté, mais aussi de Brocmel et de certains fiefs du duché. Des bruits couraient sur le banc que Ganelon rassemblait dans la ville de Caroël, puis sur la mise en marche de cet host. Mais rien n'était venu de Verre. Ce retard finit par devenir troublant. Les premiers à s'en inquiéter avaient été les chevaliers qui avaient servi dans l'hôtel de la duchesse Odéarde. Le doute s'était ensuite diffusé, avait gagné le sire de Froek et d'autres vassaux de Kimark. S'il fallait reconnaître une qualité au jeune Blancandin, c'était une belle fermeté de caractère. Alors que de jour en jour il se trouvait pressé par toujours plus de questions, il n'avait pas varié dans ses assurances. L'arrivée de son frère n'était que différée, mais Méléagant était déterminé à défendre la duchesse. Rien ne se mettrait en travers de son chemin quand il serait temps. Pourtant, le damoiseau lui-même paraissait inquiet, jugeait Ivorin. Même si force était de reconnaître que sa résolution ne faiblissait point. Sans doute livrait-il un secret combat contre la peur. On aurait pu le comprendre à moins. D'un jour à l'autre, les rumeurs rapportaient que l'armée ducale s'apprêtait à fouler le sol de Kimark, puis qu'elle était entrée dans la région. Depuis la veille, les enfants perdus bromalois montaient le camp du duc, à portée de vue des pavillons du comte. Ce n'était pas seulement par sympathie que le jeune chevalier de Kéan était intéressé à la situation de Blancandin. Sa propre fortune lui paraissait de jour en jour de plus en plus liée aux tribulations du damoiseau. Car Méléagant de Verre n'était pas le seul champion qui fit défaut. On n'avait vu nulle trace d'Edan de Vaumacel au camp de l'Indinas. Dans la suite de Blancandin, cette défection n'avait pas surpris comme celle du seigneur de Verre. Elle n'avait fait que confirmer les chevaliers de la duchesse Odéarde dans leur piètre estime pour le sire de Vaumacel. S'ils conservaient encore l'espoir de voir arriver Méléagant au dernier moment, ils étaient en revanche convaincus de la désertion des Danes. En tant que garant du renégat, Ivorin se retrouvait dans une position inconfortable. Dante de Maubranas lui avait reproché sans ménagement d'avoir péché par naïveté, et en avait conclu que le bachelier ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Plus aimablement, Cowyer de Thèves l'avait engagé à voir le bon côté des choses. S'il restait prisonnier sur parole, du moins y avait-il gagné au change, avec un maître de plus haute naissance et de meilleure moralité. Le chevalier de Kéan éprouvait la plus grande confusion. Le sire de Vaumacel avait-il connu quelques traverses dans les hautes terres d'Agurande, ou l'avait-il bel et bien joué? Malgré les vilains bruits qui couraient dans le comté de Belle-Estance, malgré les mises en garde que lui avait adressées la baronne de Brégor, le bachelier avait-il eu la niaiserie de se laisser duper par un beau parleur? Pareille sottise, s'il l'avait vraiment commise, se révélait pire que sa défaite et sa reddition. On ferait des gorges chaudes dans son dos, et la belle Héloïse ne pourrait lui passer de s'être montrée ridicule. Il essayait de chasser cette idée en buvant plus que de raison. Mais il en avait le rouge au front. Le plus mortifiant de l'affaire, c'était de ne savoir sur quel pied danser. S'il venait à recroiser le chemin du sire de Vaumacel, serait-il en droit de lui demander réparation? A priori, étant le captif de Blancandin et plus celui du chevalier, rien ne s'opposerait à ce qu'il le défiât. À moins, bien sûr, que le chevalier de Vaumacel eût été retenu par des circonstances comme une blessure ou une captivité. Dans ce cas, Ivorin pourrait-il considérer malgré tout qu'Edan avait manqué à sa parole? Ces incertitudes tourmentaient d'autant plus le jeune chevalier qu'il sentait la désapprobation de son propre écuyer. Quoiqu'il ne formulât point le fond de sa pensée, le robuste Bribras laissait percer son agacement. Jugé par son propre valet d'armes, le camouflet était insupportable. Ivorin ne voyait qu'une issue à ce marasme. Le lendemain, il lui faudrait remporter au moins un cheval et un harnois. S'il était capturé, c'en était fini de sa chevalerie. Jamais il ne serait capable de reverser le prix de 2 destriers et de 2 armures. Après tout, n'avait-il pas gagné 3 chevaux au tournoi de Belcastel, qu'il avait si libéralement distribué ou rendu? Il ne lui restait qu'à renouveler l'exploit. Il ne se voilait pas la face. Sans doute les champions que le duc enverrait sur le pré seraient-ils autrement redoutables que les chevaliers fraîchement adoubés à la cour du comte de Dinel. Et encore, cela ne serait-il qu'un début. Sa liberté recouvrée, afin de laver complètement l'affront, Ivorin devrait retrouver le chevalier de Vaumacel, le défier et le vaincre. À cette condition seule, il retrouverait son prestige aux yeux de la sublime Héloïse. Remâchant ses idées moroses, Ivorin était de moins bonne compagnie qu'à l'ordinaire. Il n'eut pas un regard pour les desserts que les pages faisaient circuler entre les tables. Petite foisse dorée, oublie au vin blanc et riche mangée au safran. Cela faisait un moment qu'il ne participait plus aux conversations qui roulaient autour de lui et se désintéressait de la discussion de Blancandin et d'Équimarque, que du reste, il avait du mal à entendre dans un brouhaha de voix et d'instruments. Le jeune prince parlait pourtant avec animation, comme s'il défendait un point de vue controversé au cours d'une dispute entre clercs. Le comte Anguzel condescendait parfois à un hochement de tête poli, mais son expression demeurait indéchiffrable. Son fils, le seigneur Claudas, souriait d'un air dangereux. À la fin du repas, alors que les valets débarrassaient les tables, Ivorin fut tiré de ses ruminations par un page. « Monseigneur Blancandin vous invite à l'accompagner à l'arbre aux écus, » lui dit l'enfant. « Il vous attendra à la sortie du pavillon. » Cette demande ne surprit pas le chevalier de Kéan. Après tout, ses armes étaient accrochées dans l'arbre. À la veille des commensailles, il était temps d'apprendre qui avait relevé le gant. La tête lui tourna légèrement quand il se leva, et il se reprocha d'avoir manqué de sobriété. Espérant que le grand air lui ferait du bien, il se dirigea vers l'entrée de la tente. Autour de lui, Une nouvelle rumeur se répandit avec la brusquerie d'une giboulée. Le duc était soudain sur toutes les lèvres. Le duc arrivait. Non, le duc était déjà arrivé. Le duc allait paraître d'un moment à l'autre. Au milieu de cette effervescence, Blancandin et sa petite suite formaient un groupe plus fermé, dont la tension était palpable. Ivorin les rejoignit en dissimulant son trouble sous un mâle visage. La fièvre qui s'était emparée de la société noble bruissait sous l'azur printanier et le chant des oiseaux. En quittant le pavillon comtal, on émergeait d'un demi-jour tamisé par les vélums et les tentures damassées pour se retrouver baigné par une claire lumière toute lavée par une récente averse. Les couleurs vives des tentes, des bannières, des costumes chatoyaient dans le frais soleil. Ce faste éphémère, tout bruissant de cris, d'appels, de hennissements et de musique, célébrait le printemps et les divertissements de la guerre courtoise. La présence de Blancandin devant la tente du comte attirait quantité de curieux, désireux de voir sa façon de réagir maintenant que son père était arrivé. Le damoiseau dissimulait sa nervosité et répondait de façon évasive aux questions que lui posaient quelques impertinents. Une fois rassemblés les chevaliers de son conroi, il les convia à mettre le pied à l'étrier pour gagner l'arbre aux écus aux abords du château. Ils durent pour cela traverser une partie du camp, mais sitôt en selle, ils purent se dégager des indiscrets en quittant le grand parc aux chevaux. Piquetée de rares boqueteaux, une immense prairie déployait ses herbages devant les jambes de leurs palefrois. Derrière eux, ils abandonnaient le camp du dedans, c'est-à-dire le grand campement monté par le comte de Kimark pour les défenseurs du pas de l'immortel. Une demi-lieue devant eux, à l'ouest, les prés étaient barrés par un autre campement, celui du dehors, que les avant-gardes et les valets du duché avaient monté la veille et qui, si la rumeur était exacte, accueillait désormais Ganelon de Bromel. Au sud, un petit lac baignait les deux camps. Les parcs avaient été d'ailleurs aménagés à chaque extrémité du point d'eau pour faciliter le boire des écuries. Au nord, se dressait la place de Lindinas. Il s'agissait à peine d'un château, plutôt d'une ferme forte flanquée d'une grosse tour et protégée par une petite enceinte. Juché sur une butte, ce castelet était entouré d'un verger. Le printemps y avait transformé les pommiers en nuages de fleurs. La tour de Lindinas n'était qu'une tenure modeste du comté de Kimark, qui aurait pu soutenir l'assaut d'une petite bande, mais n'aurait guère résisté à l'armée d'un grand seigneur. Anguzel de Kimark l'avait élu pour l'agrément du cadre et la commodité du terrain, proclamaient ses héros d'armes. Il l'avait surtout choisie parce qu'elle était éloignée de sa ville de Mormark, ou du nouveau château de Neuvidine qu'il faisait édifier face à la seigneurie d'Ouchin. Si les choses dégénéraient avec le duc, la chute de Lindinas serait de peu d'importance. Anguzel ne s'était pas caché d'avoir laissé de solides garnisons dans ses principales forteresses. Quittant le camp du dedans et laissant le camp du dehors sur sa gauche, la petite troupe de Blancandin prit la direction de la tour. Le château ne formait pas son objectif. Son véritable but était un grand charme solitaire à une portée d'arc du verger. De curieux fruits étaient suspendus à ses branches maîtresses, les écus de Blancandin et de ses compagnons. Tel était le défi rituel que ceux du dedans lançaient à ceux du dehors. Ils affronteraient quiconque viendrait toucher leurs armes. Quelques écuyers, qui tuaient le temps en jouant au dé ou à croix ou pille, surveillaient distraitement les boucliers. Ils avaient charge de prendre le nom et la qualité des chevaliers venus relever le gant. Blancandin entraînait donc ses compagnons vers l'arbre pour relever les cartels. Personne parmi eux n'arborait d'armes, sinon d'élégantes dagues civiles. Ils montaient des chevaux de parade ou de plaisance au lieu de destriers, et n'étaient vêtus que de pourpoints et de surcots brodés. Seuls les brindilles mortels, que tous portaient déjà au chapeau ou au revers, signalaient qu'ils avaient pris parti. Les combats ne s'ouvriraient que le lendemain. Encore ne s'agirait-il que des commençailles, où seul Blancandin et son conroi de 8 chevaliers affronteraient les 9 champions que lui enverrait le camp du dehors. Le vrai tournoi n'était prévu que pour le surlendemain. Ce jour-là, on livrerait vraiment bataille. En d'autres circonstances, sans doute le prince et ses compagnons auraient-ils pris plaisir à la promenade. Sous un ciel pommelé de duvet blanc, la prairie se parait des douceurs d'un grand jardin. Pages et écuyers faisaient trotter des chevaux ou courir des chiens. Sortis des deux camps, des parents ou des amis se rejoignaient sur le pré et se livraient à des démonstrations d'affection. À l'ombre paisible du petit château, quelques couples flânaient sous les pommiers en fleurs. Même les reliefs lointains des hautes terres d'Agurande, qui barraient l'horizon septentrional, s'attendrissaient de bleu pastel. Tout dans ce paysage aimable chantait l'allégresse de la brise, des passereaux et de l'herbe jeunette. Mais concentrés sur leur affaire, Blancandin et ses chevaliers n'y voyaient que le champ où, dès le lendemain, ils croiseraient le fer devant toute la noblesse de Bromel et de Quimarc. Le convoi du prince était presque au complet. Certes, l'absence de Méléagant troublait la compagnie. La défection des Danes de Vaumacel, en revanche, ne chagrinait qu'Ivorin. Blancandin et ses chevaliers l'avaient pressenti de longue date. Une semaine plus tôt, ils avaient invité un autre chevalier à remplacer l'inconstant. Il s'agissait de Vichard de Laudunet, un cadet de la puissante famille de Landefried. Quoique Sire Vichard appartint à Bromel et non à Quimarc, il avait rejoint le camp du Dedans par courtoisie et avait publié son intention de combattre en arborant trois brins d'immortel. Il s'était montré surpris, mais aussi honoré, qu'on lui offrit de s'illustrer dès les commensailles sous la bannière de Blancandin. Le jeune prince avait également renoué avec un cousin germain. Il ne se quittait guère depuis leur retrouvaille à Lindinas. Sire Dilsin de Maginois n'était autre que le neveu de la duchesse Odéarde. Ayant quelques années de plus que Blancandin, il avait également le charme et les belles manières des Maginois. Physiquement, il ressemblait assez à Méléagant, mais se montrait de tempérament moins exubérant. Blancandin avait reporté sur ce bel homme, lié par le sang à la duchesse, la faveur dont il ne pouvait gratifier son frère absent. Du reste, les deux cousins se retrouvaient dans une situation semblable. Le baron Échivard de Maginois, père de Dilsin et oncle maternel de Blancandin, avait participé à la cour de justice qui avait jugé la duchesse. Estimant avoir été déshonoré par l'adultère de sa sœur, le baron avait apporté son suffrage à la condamnation, ce qui lui avait valu de sauver son siège au sein du conseil privé du duc. En prenant la défense de sa tante, Dilsin de Maginois, tout comme Blancandin de Bromel, entrait donc en rébellion contre l'autorité paternelle. Dans la petite troupe qui approchait de l'arbre aux écus, ne manquait que Sir Fitzurse du Havne. Rien d'anormal à cela. Sir Fitzurse était un original, qui, tout en prenant fait et cause pour la duchesse Odéarde, restait un preux avec qui le duc n'avait jamais réussi à se brouiller tout à fait. Les deux hommes étaient liés depuis 25 ans. Ils avaient combattu au coude à coude pendant la guerre du Hériban. Quand Ganelon s'était retiré de la cour après la mort de son frère, il s'était réfugié chez son ami Fitzurse à Mélem, sur la plus grande des îles maroises. L'accession au trône de Ganelon eût pu élever le sire du Havne au comble de la faveur. Il n'en avait rien été, car les cervelets s'étaient épris de la duchesse Odéarde et n'avaient pas su dissimuler. Fitzurse possédait de belles qualités, la bravoure et la loyauté n'étant pas les moindres. Mais il était aussi d'une remarquable laideur. La belle et puissante Odéarde se trouvait plus embarrassée que flattée par un soupirant si mal tourné. L'infortuné Fitzurse, qui avait conscience de ses disgrâces, ne poussait d'ailleurs pas sa cour très loin, mais mettait un point d'honneur à se comporter en chevalier servant de la duchesse, alors même qu'il ne faisait point partie de son hôtel. Toute la bonne société en riait sous cap. Le duc, qui fulminait contre la bêtise de ce compagnon de la première heure, lui avait préféré des esprits moins évaporés, comme Anaro de Traval ou Magnans Diatchekrimen, quand il avait fallu distribuer des charges. Quant à la duchesse, elle avait fini par se prendre d'une amitié teintée de pitié pour ce parangon de courtoisie malheureuse. Conscient de ses échecs mais fier de ses loyautés contradictoires, Sir Fitzurse avait toujours réussi à conserver la sympathie irritée du duc. Au cours du procès de la duchesse, il s'était hautement plaint qu'on ne l'eût pas accusé d'un commerce coupable avec sa dame. Car à la différence de ce pleutre de Vaumacelle, il eût défendu son honneur et son amour sur le pré. Telle était l'étendue de son infortune. Même pour le duel judiciaire, on lui avait préféré un rival. Ganelon ne parvenait pas à se fâcher avec un homme aussi malheureux. Voilà pourquoi, dès qu'avait couru la rumeur de l'arrivée du duc, Sir Fitzurse s'était présenté au camp du dehors. Dans le conroi de l'immortel, il était le chevalier qui risquait le moins à paraître devant le suzerain. On l'avait donc envoyé aux nouvelles. À mesure que la suite de Blancandin approchait de l'arbre aux écus, le damoiseau affichait un air plus soucieux. Pour distraire ses compagnons de l'impression pénible que produisait le prince, Dame de Maubrenas entreprit de rappeler les règles fixées par les rois d'armes. Le tournoi sera disputé sur le pré que délimitent les deux camps. L'étang au sud et le château au nord, dit-il en les montrant du bras. Toute la prairie formera le champ de guerre, y compris le verger, l'entrée et la cour du château, ainsi que l'entrée de la tour. Quiconque se risquera sur cette aire sera considéré comme un belligérant. Le rempart et l'intérieur de la tour seront des sanctuaires. Ils feront office de tribune pour les dames et les spectateurs désarmés, mais seront interdits aux combattants. Les seuls refuges sont les deux camps. Ils sont inviolables aux adversaires. Un chevalier dans l'enceinte de son camp est intouchable. Un chevalier entraîné dans le camp adverse est pris. Les portes du château et de la cour resteront ouvertes. À la fin de la journée, si le seuil de la tour est conquis, le camp du dehors l'emportera. Si l'entrée de la tour est sauve, le camp du dedans aura la victoire. « Mais tout cela ne concernera que la grande mêlée du tournoi, » remarqua Dilsin de Maginois, « et non les commensailles. »« Cela va sans dire. Demain, nous ne croiserons les bois qu'avec les 9 champions que nous enverra le camp du dehors. La tour de Lindinas ne sera point en jeu. »« Sur une aire aussi vaste, nous ne manquerons pas d'espace, » observa le sire de Thèves. « Les spectateurs seront loin. » Il est possible que des curieux sortent des lices juste pour mieux voir. C'est plus que probable, grommela Dame de Maubrenas. Il faudra nous garder des embûches. Parmi ces imprudents, il pourrait se trouver quelques fourbes. Tout en devisant, la petite bande de cavaliers finit par arriver à l'ombre du grand chêne. Malgré ses inquiétudes, Ivorin ne put se défendre contre un accès de fierté en contemplant les boucliers suspendus aux branches maîtresses. Le corps virolé de la modeste maison de Kéan y voisinait avec les engemmes d'or de Maginois et le cerf héliophore de Bromel. Ces blasons prestigieux portaient certes les brisures des fils de famille, mais Ivorin se sentait malgré tout hissé au rang des lignées les plus prestigieuses. Pareil honneur ne pouvait rester sans lendemain. Les chevaliers commencèrent cependant très vite à déchanter. Les écuyers laissés à la garde de leurs armes leur apprirent que personne n'était venu les défier. Or, l'host ducal comportait de redoutables jouteurs. Il était peu crédible qu'on y craignît le conroi de Blancandin au point de ne pas relever le gant. Ce désintérêt ressemblait plutôt à du mépris, à moins qu'il ne fallût y voir une injonction du duc. « Que faire si nul ne se présente contre nous ?» rit Vichard de Laudunay d'un air un peu vexé. « Jouterons-nous les uns contre les autres ?»« J'en doute fort, » répondit Gérian de Froec. « Ce dédain est une façon de nous signifier le mécontentement de son Altesse ducale. Mais elle ne pourra ignorer notre défi. Ce serait nous donner gain de cause et laisser la journée à Monseigneur Anguzel. Peut-être ne faut-il pas mal y penser. » Tempéra Cohuir de Thèves. La cour ducale arrive à peine. Sans doute les chevaliers du dehors débattent-ils encore pour élire 9 d'entre eux. Et désignant un cavalier qui trottait vers eux, il ajouta « Nous devrions être fixés. Sir Fitzurse est de retour, il va nous apporter des nouvelles. » Le chevalier du Havre ne tarda pas à les rejoindre. Quoiqu'il fût le plus vieux de la bande, il paraissait encore vert, et son visage disgracieux témoignait une belle énergie. Retroussant haut la lèvre sur une gencive aux dents mal plantées, il riait au vent d'avoir plongé dans la cour de Ganelon et surtout d'en avoir réchappé. Pour saluer son suzerain, il avait revêtu ses plus beaux atours, mais s'en était si mal apprêté qu'on eût pu le prendre pour un brigand attifé des dépouilles d'autrui. Ses yeux paraissaient moins chassieux qu'à l'ordinaire. La perspective de combattre pour sa dame le mettait en joie. Sans même lui laisser le temps de prononcer un mot, plusieurs chevaliers l'interpellèrent et l'interrogèrent sur ce qu'il avait découvert. Blancandin coupa court à ce tohu-bohu avec quelque sécheresse. « Procédons par ordre » lança-t-il avec autorité. « Nous avons l'opportunité d'être loin d'oreilles indiscrètes. Profitons-en pour tenir conseil. Mettons pied à terre et renvoyez les écuyers. Une fois que nous serons seuls, nous écouterons Sir Fitzurse. Puis j'aurai une déclaration à faire. Ensuite, nous délibérerons sur la meilleure conduite à tenir. » Un peu surpris par ce ton cassant, les chevaliers s'exécutèrent. Les brides des palefrois furent confiées aux écuyers, chargés de les mener paître à quelque distance. Blancandin s'assura d'un regard circulaire qu'il n'y avait plus d'indésirable, puis adressa un signe de tête aux chevaliers du Havre. « Nous vous écoutons, Sir Fitzurse. »
Je dois, tout d'abord, vous transmettre les salutations de Son Altesse Ducale, Monseigneur. Votre père m'a dit que les circonstances dans lesquelles il vous retrouve le déçoivent fort, mais que son déplaisir est compensé par le bonheur de vous revoir. Il vous invite à venir l'embrasser séance tenante.
Le prince parut embarrassé.
« M'a-t-il donné sauf-conduit ? » demanda-t-il. Il ne l'a pas formulé en ces termes. Il a juste juré que vous n'aviez rien à craindre de sa part.
Blancandin hocha la tête avec circonspection.
Son discours vous a-t-il paru sincère?
S'enquit-il.
Eh bien, je n'étais pas dans la tête de Monseigneur Ganelon, mais je crois bien qu'il pensait ce qu'il disait. Et rien de plus que ce qu'il disait. Dans son entourage, j'ai repéré des émissaires de Sacralia, un maréchal et un chapelain de l'ordre. Comme il n'a donné aucune précision à leur sujet, qui peut savoir s'il les empêcherait de s'emparer de votre personne?
Si vous étiez à ma place, Fitzurse, que feriez-vous?
Oh, Monseigneur, je suis loin d'être à votre place et je ne m'en porte pas plus mal. Disons que, par piété filiale, j'irai sans tarder témoigner mon affection et ma désapprobation à Son Altesse Ducale. Mais si je tenais bel et bien à être adoubé demain, je remettrai peut-être ces effusions à plus tard. J'ajoute que la nouvelle duchesse est de la fête, et que cela risque de ne pas faciliter votre réconciliation.
La moue du prince fut éloquente. Pour lui, la question était tranchée.
Et qu'en est-il de la cour ? Intervint Dilsin de Maginois.
Mon père a-t-il répondu au banc ?
Je crains que oui, et je le déplore pour madame votre tante.
Le baron de Maginois n'est pas venu seul. Parmi de nombreuses bannières, j'ai vu les couleurs du comte de Belle-Estance et de ses maisons vassales, celles du connétable de Traval, de la baronne de Brégor.
À l'évocation de ces noms, Ivorin eut du mal à garder son calme. Si le comte d'Odinel avait pris fait et cause pour le duc, le jeune chevalier de Caen devenait un rebelle en épousant la querelle de Blancandin. Quant à la baronne de Brégor, il faudrait lui confesser la honte de sa défaite face au chevalier de Vaumacel. Le plus désespérant était la présence probable de la belle Héloïse dans la suite de la comtesse de Belle-Estance ou dans celle de sa tante, Hérambourg de Brégor. La colère ou le dédain qu'inspirerait à ces puissantes dames le ralliement du bachelier au camp du Dedans ne pourrait que rejaillir sur l'opinion qu'Héloïse se ferait de lui.
« Son Altesse Ducale est appuyée par d'autres seigneurs, » poursuivait le chevalier du Havre en s'adressant à Blancandin. « Vos demi-frères Lanval et Domnal sont du nombre. Le seigneur Douchin mène une grosse compagnie de soudoyers aux romans. La nouvelle duchesse est également escortée par une ambassade tudalienne que commande son cousin, le sénateur Razicaire, ou un nom d'oiseau de ce genre. Et puis, il y a le chancelier Diacekrimen,
C'est Claire et ses mouchards qui avilissent cette belle société.
L'armée vous a-t-elle paru puissante ? Demanda Cowir de Thèves.
Le camp me semble plus étendu et plus peuplé que celui du comte Anguzel.
Nous aurons donc affaire à forte partie pour défendre la tour.
Je n'en jurerai pas, relativisa le chevalier du Havre. Le duc affirme hautement qu'il désapprouve ce tournoi et qu'il préférerait qu'il n'ait pas lieu. Il estime que c'est diviser nos armes à la veille d'une chevauchée militaire où il voudrait unir nos forces. Il a d'ailleurs essayé de me convaincre de vous abandonner.
Je reconnais bien là monseigneur mon père, persifla Blancandin. À combien estime-t-il votre loyauté ?
Ne le méjugez point, monseigneur. Ce serait vous abaisser et vous mettre en péril. Il n'a pas cherché à me corrompre avec de l'or ou une charge. Il sait combien cela m'aurait froissé. À vrai dire, il a visé assez juste. Et je dois avouer que j'ai balancé un instant.
Que diable t'a-t-il offert, Fitzurse ?
S'écria Dame de Maubrenas.
Un droit de visite à Madame Odéhard, dans sa prison de Mondoir, afin que je puisse lui présenter mes hommages et m'assurer qu'elle est bien traitée. Voilà un an que je n'ai pas vu Madame et que je me fais du mauvais sang. La proposition m'est allée au cœur, pour dire les choses sans détour. Et pourtant je l'ai refusée. Car pour m'incliner ainsi devant Madame la Duchesse, il m'aurait fallu abandonner la défense de ses droits. Or, je ne puis m'y résoudre. Je préfère souffrir de la séparation et rester digne de son estime.
La noblesse de cette décision valut plus d'un éloge au chevalier servant. Sir Fitzurse les accueillit avec un sourire un peu triste. Ses compliments étaient infiniment plus flatteurs que la risée dont il avait été l'objet pendant des années, mais sans doute avait-il conscience que sa dévotion à sa dame ne lui accorderait jamais meilleure satisfaction. En considérant cet amant sans espoir, Ivorin eut le cœur serré. Il se sentit gagné par la pitié et par l'inquiétude. Il se demanda si lui-même ne finirait pas par ressembler au chevalier du Havre, trop obscur et trop méprisé pour jamais être aimé par la dame qu'il avait élue. L'un des seigneurs, toutefois, ne se laissait pas distraire par la beauté du geste de Sir Fitzurse.
« Nous avons une leçon à tirer de la proposition du duc, » dit Gérian de Froeck.
« Il utilisera des moyens détournés pour nous désarmer. Restons sur nos gardes, et pas seulement en champ clos. »
« En effet, » renchérit Dame de Maubrenas, « c'est tout à fait dans sa manière, et méfions-nous du chancelier. » En voilà un qui ne lésine pas sur la côtelle.
Vous avez raison, chevalier, abonda Blancandin.
Nous devons nous attendre à quelque chose trappe. Et quoique vous m'envoyiez bien fâché, je crains de devoir vous révéler une difficulté de plus.
Le damoiseau prit un air presque déconfit en faisant cet aveu, ce qui fit dresser l'oreille de ses compagnons.
J'ai une nouvelle secrète à vous annoncer. Poursuivit le prince avec réticence. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que nous soyons seuls. J'aurais aimé vous en aviser plus tôt, mais j'avais prêté serment de ne le faire qu'aujourd'hui. Je viens à peine d'en instruire mes seigneurs Anguzel et Claudas. En tant qu'appelant de ce tournoi, ils devaient en avoir la primeur. Je ne vous cacherai pas combien il m'a déplu de vous piper ainsi, mes chers amis, mais j'étais lié par ma parole et par l'intérêt supérieur de Madame la Duchesse.
« Voilà bien des précautions et bien des mystères, » commenta le sire de Thèves.
« Quelle est donc cette étrange confidence ?»«
Oh, ce n'est qu'une demi-révélation. Les plus fins d'entre vous l'auront déjà deviné. Mais Léagan ne paraîtra pas au tournoi. »
À en juger par le silence qui accueillit ces paroles, bien peu de chevaliers avaient eu la clairvoyance que venait de leur prêter Blancandin. Après un instant de stupeur, ce fut une cacophonie de protestations incrédules ou outrées.
« Mais enfin, s'effara le chevalier de Froeck, c'est votre frère qui a proposé ce pas d'armes à monseigneur le comte.
Nous faire prendre les risques à sa place ne lui ressemble guère, » argua Dilsin de Maginois.
Il vous a fait évader à cette seule fin, broncha Cowir de Thèves.
Ce n'est pas possible, s'emporta Dame de Maubronas. Enfin, souvenez-vous, il brûlait de combattre.
Et n'a-t-il pas juré qu'il allait nous rejoindre? Renchérit le sire de Thèves.
Oserait-il manquer à sa parole?
Blancandin agita la main pour apaiser un peu cette indignation générale.
Mon cher Cowir, ni mon frère ni moi ne vous avons menti, rectifia-t-il.
Méléagan a juré qu'il se mettrait en route, mais il n'a jamais précisé que ce serait pour Lindinas.
Si je suis le premier gêné d'avoir eu recours à pareil procédé, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas eu parjure.
Mais s'il n'est pas des nôtres, que fait-il?
S'étonna Dilsin de Maginois.
Cela aussi, j'ai juré de ne le révéler qu'en temps utile. Il est encore trop tôt. Tout ce que je puis vous dire, c'est que mon frère agit au service de Madame ma mère. Chevalier, sachez que je regrette profondément d'avoir manqué de franchise avec vous. J'ai grande estime pour vous tous, et je sais ce que je dois à certains d'entre vous. Mon frère m'a pressé d'agir de la sorte, et après lui avoir exprimé mes réserves, j'ai fini par me ranger à son avis. J'ai une entière confiance en vous tous, mais peut-on attendre que le secret soit gardé par des pages et des écuyers? Il ne fallait pas courir ce risque. Voilà pourquoi je vous ai laissé croire que le seigneur de Verre finirait par se joindre à nous.
« J'entends bien vos excuses, » grommela le sire de Froec. « Le procédé n'en demeure pas moins cavalier pour nous tous, comme pour Monseigneur Anguzel. Au moins aurons-nous été mis dans la confidence juste à temps. Il va falloir quérir un chevalier pour tenir la place de votre frère dans le combat de demain. »
« Vous m'avez mal compris, sire Gérian, » répondit doucement Blancandin.
Le prince lui coula un regard pensif, puis ajouta « Personne ne remplacera Méléagan. Si nous recrutions un autre compagnon d'armes, nous agirions en gens avertis. Mon père et son chancelier comprendraient que l'absence de mon frère, loin d'être un retard ou un accident, a été délibérée. Ils finiront par le deviner, mais il faut différer le plus possible cette découverte.
« Voulez-vous dire que nous servons de leurre ?» se piqua le sire de Thèves.
« Je veux dire que mon frère joue une partie dangereuse, et que nous devons tout faire pour le seconder. »
« Or donc, si je vous entends bien, » dit le chevalier de l'eau du nez, « nous faisons comme si de rien n'était, et demain nous ne serons que 8 à nous présenter sur le pré. Si ceux du dehors envoient 9 champions, nous partons donc avec un handicap. »
« Vous m'aviez bien compris, » confirma le prince.
« Si mon père relève le gant, nous combattrons à 8 contre 9. »
Ces paroles jetèrent un froid. Les chevaliers avaient défié en connaissance de cause l'autorité ducale, mais voici qu'ils apprenaient au dernier moment qu'ils le faisaient de façon plus périlleuse que prévu. Les risques de capture étaient accrus. Pour peu que, comme Ivorin, ils n'eussent pas les moyens de racheter aussitôt leur liberté, le duc paierait probablement leur rançon pour en faire ses prisonniers.
« Corps de roi !» maugréa le chevalier de Thèves. « Vous nous avez mis dos au mur !»«
Allons, allons, ami Cowir, nous en avons vu d'autres !»
relativisa Gérian de Froec.
« 8 contre 9, cela reste très jouable !»
« Tout dépendra de l'adversaire, »
dit Vichard de Laudunet avec moins d'optimisme. Par fierté ou par superstition, personne ne cita de nom, mais tous craignaient des champions comme le connétable de Traval ou le fougueux Bruin de Bangarde. Et si la plupart des preux qui suivaient Blancandin avaient déjà fait leur preuve, restait l'inconnu que représentait le prince lui-même. Dans un conroi diminué, il suffirait d'un combattant peu aguerri pour que toute la troupe s'effondre.
« Nous devrons nous serrer comme un rang en cac, » décréta Dame de Maubronas.
« Vous resterez au centre, monseigneur, car ceux d'en face se bousculeront pour vous capturer. »«
Quelle conduite préconisez-vous ? » demanda le prince. « Sera-t-il plus prudent de nous défendre en misant sur l'usure, ou devrons-nous choquer l'adversaire dans l'espoir de rétablir au plus tôt l'équilibre des forces ?»
L'idéal serait de percer leur ligne et de la diviser pour tomber en groupe sur des isolés,
avança le sire de Froec.
Ils en auront autant à notre service,
persifla le chevalier de l'eau du nez.
Je ne crois pas, rétorqua Gérian. Pas si nous sommes en infériorité numérique.
Le plus aisé sera pour eux de nous tourner sur une aile. Il faudrait que nous devinions sur quel flanc nous serons ainsi débordés, que deux ou trois des plus vaillants d'entre nous défendent la position et occupent quatre ou cinq d'entre eux. Nous pourrons percer au centre et récupérer l'avantage sur l'autre flanc.
En toute logique, ils chercheront à nous tourner par la droite,
observa le sire de Thèves,
là où notre ailier n'aura pas le flanc couvert du bouclier.
Avons-nous un gaucher parmi nous ?
Demanda Blancandin sans se faire beaucoup d'illusions.
Il ne recueillit qu'un cœur de dénégation.
Cela ne surprit personne. La main gauche étant celle du desséché, toute la chevalerie bromaloise apprenait à férir de la droite.
Il existait certes des gauchers chez les guerriers ou romans, mais cette façon de frapper était considérée comme déloyale par la noblesse du duché.
Aussi, rares étaient les gendarmes qui auraient adopté pareil usage.
« Le flanc droit du conroi offrira donc les places d'honneur »,
formula finement le prince.
« Il faudra y placer des combattants solides,
et surtout avec la tête froide »,
ajouta Gérian de façon plus prosaïque.
« N'oubliez pas le sens du sacrifice »,
badina le chevalier de l'eau du nez.
« Peut-être devrions-nous remettre cette conversation à plus tard »,
les coupa Dame de Maubrenas.
Il avait détourné le visage et contemplait le grand pré.
Une petite troupe de cavaliers qui venait de quitter le camp du dehors traversait tranquillement la prairie dans leur direction.
Les meneurs étaient désarmés, mais quelques écuyers en serre-fil portaient des lances.
« Voici probablement nos assaillants, »
ajouta le sire de Maubrenas.
Les chevaliers du parti de Blancandin se déployèrent sous l'arbre pour attendre les arrivants.
« Nous devrions rappeler les chevaux, »
proposa Dilsin de Maginois.
« Nous n'en ferons rien, si vous m'en croyez, » répondit Gérian de Froec.
« Laissons ces seigneurs nous regarder de haut et présumer de leur force. Cela pourrait les pousser à la faute. »«
C'est le conseil d'un prud'homme, » approuva Blancandin.
« Restons à pied. »
Ses compagnons se conformèrent à ce souhait, bien que certains parussent réticents.
La petite bande qui chevauchait à leur rencontre était menée par trois seigneurs.
Quand les partisans du prince les reconnurent, la tension devint perceptible sur plus d'un visage.
En tête venait pourtant l'un des vassaux les plus aimables du duc Ganelon.
Bien qu'il affichât une expression un peu empruntée, Rhinfroid du Trèfle adressait malgré tout un sourire très diplomatique au chevalier du dedans.
À sa droite chevauchait un cavalier de très haute taille, assez maigre du reste.
Il était vêtu avec une afféterie un peu artiste qui lui donnait un air singulier.
Ses cheveux paille de fer et son visage creusé lui eussent conféré malgré tout un air assez ombrageux,
n'eût été la fatuité qu'il respirait.
En le découvrant, Cohir de Thèves serra les mâchoires et se mit à tripoter le pommeau de sa dague.
Mais ce fut le troisième seigneur qui concentra l'essentiel des regards.
Il était pourtant fort mal coiffé, un brin débraillé, et se laissait porter par son cheval avec une nonchalance avachie.
Mais il avait les épaules larges, la panse lourde et les balafres du grand bâtard.
Avec une assurance étudiée, Blancandin se détacha de ses chevaliers et fit quelques pas vers les arrivants.
« Quel plaisir de vous revoir, sire Rhinfroid, »
dit-il en adressant une brève inclination de tête à l'intéressé.
« Je suis fort aise de voir que vous avez répondu à mon invitation. »«
Il me fallait bien vous rendre la politesse, »
répondit le seigneur du trèfle avec une affabilité équivoque.
« Ainsi ai-je l'agrément de retrouver un jeune seigneur dont la courtoisie n'a d'égal que la naissance. »
Se tournant vers son compagnon de droite, Rhinfroid poursuivit.
« Peut-être vous souvenez-vous de Sire Ollier de L'Aulnay, seigneur de Vernejoul et chevalier de l'hôtel de la duchesse Clarissima ?»«
Je me rappelle le chevalier de L'Aulnay, » répondit Blancandin avec une correction glacée.
« Mais je n'ai nul souvenir de cette dame. »
À ses côtés, Dame de Maubrenas et Cohir de Thèves foudroyaient du regard le seigneur de Vernejoul.
Celui-ci haussa un sourcil
et s'apprêta à formuler une repartie qu'il voulait manifestement cinglante, mais le grand bâtard lui ravit la vedette. Domnall Fitzganlon venait de sauter à terre. D'un geste désinvolte, il défroissa un pli que la selle lui avait fait entrer dans le gras de la fesse, et presque dans le même mouvement, il tomba sur Blancandin. Son initiative avait été si surprenante et si brusque qu'elle provoqua des réactions menaçantes chez les chevaliers du dedans. Mais le grand bâtard se contenta de saisir son demi-frère par les épaules en poussant un gros rire.
« Ah ça !» lui claironna-t-il au nez. « Le voilà donc, le vaurien ! Peste, je ne rêve pas ! Il a presque du poil au menton !»
D'une main épaisse, il lui frotta vigoureusement le crâne.
« Eh, tête de cochon avec ça !» se réjouissait-il. « Il faut en avoir une sacrée paire pour asticoter comme ça son Altesse paternelle. Il a de qui tenir, le drôle !»«
Moi aussi, Domnall, je suis bien aise de vous retrouver en si grande forme, » grimaça le prince en tentant de se soustraire à la poigne de son aîné.
« En grande forme ?» se rengorgea Fitzganlon. « Mieux que cela, Andin. J'ai une pêche à bouffer tout ce comté. Je vais me marier, frérot. Eh oui ! Le vilain petit canard va convoler avec une dame au col de cygne. Et toi, mon coquin ? Tu accours quasi pour la noce. Je compte sur toi pour être de mes garçons d'honneur. J'espère qu'ils t'ont appris à lever le coude, tes moines, parce qu'on sera beaux comme des soleils. »
Le prince, qui avait réussi à se dégager, se passa les doigts dans les cheveux pour se recoiffer.
« Je dois avouer que je ne m'attendais guère à ces festivités-là. « Que veux-tu ? »
s'égaya le grand bâtard.
« Là où il y a de la guerre, il y a de la noce. Et puis on a la rage du mariage dans la famille ces temps-ci. »
« Je vous en félicite, Domnall. Je ne saurais en dire autant à tous nos parents. » Fitzganlon lui décocha un sourire ébréché et d'un geste négligent fit signe à son écuyer d'approcher. Sans mettre pied à terre, Ancelin le Clerc poussa son cheval en avant en s'inclinant un peu sur l'arçon pour passer sous les branches de l'arbre. Il remit une lance au bâtard.
« Maintenant qu'on s'est fait des gracieusetés, » dit celui-ci, « passons aux choses sérieuses. »
D'un mouvement désinvolte, il heurta le bouclier au cerf héliophore de son fer de lance.
« On aura du mal à se rater demain, » ricana-t-il. « On a presque les mêmes couleurs. Quand même, ma brisure est plus grosse que la tienne. »
Curieuse invitation à des fiançailles.
« Vois cela comme un enterrement de vie de garçon, »
rétorqua Fitzganlon en rendant son arme.
« Je compte bien m'en payer une tranche. » « Tu es culotté et désobéissant, gamin, et tu me sers du vous en pinçant les narines. Cette insolence, ça me plaît. Mais demain, je vais voir ce que tu as dans le ventre. »«
Mon père n'a-t-il rien de mieux qu'un demi-sang à m'envoyer ?»«
C'est ça, fais le coq, moignon. J'aurai plus de plaisir à trosser. Je viens de te tâter les chines, t'es maigre comme un clou. Je ne miserai pas un liard sur toi. Je vais quand même te rendre service. Je te casserai quelques os pour t'apprendre la chevalerie, la vraie. »
Son visage grossier s'illumina à nouveau d'allégresse.
« Après ça, on redeviendra les meilleurs amis du monde. Je t'offrirai même une danse avec la mariée le jour de mes épousailles. »
Pendant cet échange, le sire de Launay s'était également fait apporter une lance. Il commença par la dresser, tout en toisant un à un les chevaliers du dedans. Puis de la pointe, il toucha le bouclier aux armes de Thèves, d'azur au vol d'argent.
« Je vois que vous avez la rancune tenace, » gronda Cohir de Thèves. « J'ai dû par trop vous offenser quand vous m'avez chassé du château de mes aïeux, cher cousin.
Ce n'est pas moi qui vous en ai chassé, mais la justice du duc, » rétorqua le grand taulier. « Pour moi, je n'ai pas oublié vos calomnies sur le compte de mon épouse. Vous m'en rendrez raison demain.
Je maintiens ce que j'ai dit. Votre femme est une vipère qui ment comme elle respire. »
Votre défaite face au connétable a prouvé tout le contraire. Le jugement des armes a publié aux yeux de tous que vous étiez le fourbe.
J'étais dans un mauvais jour. Demain, je serai dans un bon.
Et moi, j'aurai grande satisfaction à vous faire plier le genou devant madame.
J'ai hâte de croiser le fer contre toi, Ollier. N'est pas un arreau de travail qui veut.
Ayant remis le pied à l'étrier, le grand bâtard remontait tranquillement en selle. Quant au sire de Launay, il tournait déjà bride en dédaignant de saluer Cohir de Thèves.
« Et vous, sire Rinfroid ?» interpella Dame de Maubronas. « Qui êtes-vous venu défier ? »
Oh, pour ma part, je n'ai plus la fougue de mes 20 ans, répondit le seigneur du trèfle. Je laisse l'honneur de vous affronter à d'autres. Les candidats ne manquent pas. On en débat encore sous le pavillon ducal. Disons que je me réserve pour la grande mêlée du tournoi. J'espère y échanger quelques passes d'armes avec vous. Rien de plus agréable que de se mesurer à un adversaire que l'on estime. Tout l'honneur serait pour moi, sire dame. Reste à savoir si nous en aurons l'occasion. Monseigneur Ganelon tolère le combat de demain, mais semble peu disposé à exposer tout son banc dans une bataille pour le plaisir. De toute façon, vous n'aurez aucune chance d'en être, railla le grand bâtard en direction du chevalier de Maubrenas. Après-demain, vous serez tous rompus ou prisonniers. Les seigneurs du dehors prirent congé pour regagner leur camp. Fitzganlon recommanda en riant à Blancandin de prier toute la nuit afin d'être bien frais pour son adoubement. De part et d'autre, on se souhaita le bonsoir en agitant la main ou le chapeau avec plus ou moins de dérision.